aussi à l'URMIS, à l'Université d'Azur, Côte d'Azur, pardon, et puis évidemment à l'IRD pour son invitation. Et je salue particulièrement Géraldine Bozek et puis Aïda Ramirez pour leur organisation que je juge de grande qualité. Donc je vais maintenant me consacrer à ma communication. Alors, une étude sur la laïcité en Tunisie, ciblée sur les familles francophones qui font le choix de l'enseignement laïque, peut sembler hasardeuse dans un pays qui, après une période d'affirmation laïque, avec la présidence de Habib Bourguiba, a tendu à s'organiser autour et à politiser le religieux, avec la présidence de Zine El Abidine Ben Ali, pour arriver à la prise de pouvoir d'un parti islamiste avec El Narda. Alors pour autant, le destin de ce parti islamiste a été remis en cause avec les législatives de 2014, avec l'arrivée au pouvoir d'un parti séculier d'inspiration laïque. Ce parti séculier témoigne bien de la visibilité d'une population qui ne fait pas de la religion son point de mire en Tunisie. Ah non, ça c'est pas possible. Non, c'est bon. La Tunisie compte effectivement des défenseurs de la laïcité, un point sur lequel le pays s'est longtemps montré à l'avant-garde dans le monde arabe. De nombreux intellectuels convoquent la laïcité en défendant ses valeurs. Les relations entre l'État et la religion donnent lieu à maintes controverses au sein des intellectuels tunisiens. Alors, une partie de la population francophone se révèle également attachée aux valeurs de la laïcité, comme les familles qui font le choix d'un enseignement français en Tunisie. Alors, ces familles tunisiennes et binationales font partie de l'élite sociale et ou intellectuelle du pays. Elles se distinguent culturellement de la sphère arabo-musulmane de la Tunisie par leur attachement à la langue et à la culture française. Elles se distinguent culturellement de l'islamisation rampante de la société, alors soit en faisant la promotion d'un islam peu contraignant et indépendant, soit en revendiquant l'abstention religieuse. Alors, des recherches établissent que le choix d'un établissement français en Tunisie peut relever de critères liés à la réussite sociale, certes. Alors, il participe au système de formation des élites sociales et d'autre part, il permet à l'élite francophone de contourner les problématiques posées par la démocratisation et l'arabisation du système public tunisien. Alors, sans être explicitement reconnue dans les textes officiels, la langue française jouit toujours en Tunisie d'un statut social privilégié et elle accentue la sélection sociale des Tunisiens. Il faut savoir que l'élite scolaire est formée en France, dans les pays du Nord, donc en Europe, au Canada, ou dans le pays même, dans des classes préparatoires dont les modèles sont purement français. L'école polytechnique, les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs ou encore HEC, ou l'école normale supérieure. Alors, dans un contexte de chômage des jeunes diplômés, la langue française reste encore perçue comme un véritable atout vers la voie du plein emploi, et l'élite sociale, celle qui mène la danse sur les plans économiques et politiques, mais également l'élite culturelle, est francophone ou plus exactement bilingue. Ainsi, le choix par une frange aisée de la population d'un établissement français peut effectivement s'expliquer par le statut de la langue française et par le baccalauréat français qui favorise, tant sur le plan national qu'international, la production de ressources à forte valeur ajoutée. Un baccalauréat français offre un visa, un baccalauréat tunisien n'en offre pas. Alors, outre ces critères liés à la réussite sociale, faire le choix de l'enseignement français pour les mères et les pères d'élèves, c'est également faire le choix de la liberté de conscience, de l'esprit critique et de la liberté religieuse, mais également faire le choix de la reconnaissance de la diversité des minorités. Alors, ils sont peu nombreux en Tunisie, mais il joue un rôle dans l'affirmation de ses valeurs laïques tout en assurant la reproduction des élites. Alors, je postule que le choix d'un établissement laïque peut alors se caractériser par la distanciation de ces familles tunisiennes à l'intégration d'autres normes portées, par exemple, par l'enseignement public tunisien, son arabisation, son curriculum et ses valeurs. En effet, alors premièrement, les réformes et les risques de dégradation du système public tunisien arabisé, conditions matérielles défavorables, arabisation mal maîtrisée, aliénation religieuse, suscitent de la part de ceux qui attendent de l'école qu'elle sélectionne et qu'elle reproduise des élites, des réactions de défense par l'exclusion en s'appropriant des espaces où l'on se retrouve entre soi. Alors deuxièmement, puisque ces dernières années, la part consacrée à l'éducation religieuse dans le système public tunisien s'est vue intensifier et que le système éducatif français et laïque permet aux familles de préserver leur culture de classe, il permet également de résister à la domination et à la pression d'un islam de plus en plus visible et véhément, tout en faisant valoir un pluralisme des croyances et des idées. Troisièmement, le curriculum de l'enseignement français, par exemple, avec un cours d'histoire-géographie, va permettre de rendre visibles les trous de mémoire des manuels scolaires du système tunisien, notamment sur l'histoire des minorités du pays, que ce soit les minorités juives ou les minorités noires. Alors, par une analyse des choix scolaires des parents d'élèves, tunisiens et binationaux, le choix de l'enseignement français ouvre donc un champ d'études consacré à la question de la distinction linguistique et culturelle, à la question de la prise en compte des minorités, athées, agnostiques, juives, et à la question du pluralisme religieux qui se trouve au cœur des crises que la société tunisienne a traversées et qui continue sans doute de la travailler aujourd'hui. Alors le matériau empirique mobilisé s'appuie sur une étude de terrain qualitatif qui s'est échelonnée sur 5 années. J'ai interrogé 139 personnels éducatifs, 51 parents d'élèves. J'ai également réalisé des observations formelles et informelles. Alors je passe rapidement cette partie, on pourra éventuellement y revenir par la suite. Alors, un petit point de contextualisation. La politique d'arabisation de l'enseignement public tunisien, malgré ses nombreuses réformes, ne parvient pas à combler ses lacunes, notamment celles qui concernent le rendement, taux élevé d'échecs scolaires, l'efficacité, coût trop élevé par rapport aux résultats escomptés, et l'efficience, qualité modeste des acquis scolaires. Alors, à ces difficultés, s'ajoute un manque d'infrastructures, comme l'absence de salles de restauration, l'absence de bibliothèques ou l'absence de salles de permanence dans les espaces scolaires, ce qui incite les élèves à flâner en dehors de l'espace scolaire et ceci malheureusement contribue également à l'échec scolaire des lycéens. Alors cette situation incite les parents d'élèves des classes moyennes et supérieures à contourner l'enseignement public tunisien en faveur de l'enseignement privé tunisien. C'est un enseignement bilingue, le plus souvent donné en langue française et arabe, et certains de ces établissements privés cumulent le système de l'éducation nationale française avec le système de l'éducation nationale tunisienne. Alors les lycéens y bénéficient d'un enseignement adéquat en langue française et arabe et d'une meilleure infrastructure. Ceci leur permettra de prétendre à des aptitudes linguistiques valorisées et valorisables socialement. Alors la désaffection du système public tunisien, arabisé, se mesure au travers du nombre croissant et exponentiel de l'institution privée bilingue tunisienne qui également propose une troisième langue d'enseignement, voire une quatrième avec l'anglais et l'italien. Alors ce sont principalement les familles urbaines aisées qui y ont recours, bien qu'une minorité de parents tunisiens s'avère finalement déçue par l'enseignement privé et considère finalement sa qualité en deçà de ses prévisions. Alors le revirement de cap pour l'école française est alors considéré comme la seule issue envisageable, notamment parce qu'elle permet aux enfants de grandir entre pairs par le biais d'un phénomène de ségrégation scolaire. Alors, puisque les parents d'élèves peuvent opérer des choix scolaires hiérarchisés grâce à la diversité de l'offre, ils peuvent également contourner le système d'enseignement tunisien et remettre en cause sa vocation d'intérêt général. Alors, dans son ensemble, les élèves tunisiens et binationaux des établissements français sont issus de familles aisées, petite bourgeoisie, aristocratie, cadres et cadres supérieurs qui occupent des postes de haut niveau au sein des professions libérales, mais aussi au sein de l'échiquier politique. Lors de mon enquête de terrain, il y avait par exemple les deux filles du président Zine El Abidine Ben Ali. Alors, certains parents qui scolarisent leurs enfants dans l'école française sont des héritiers, au sens de Bourdieu, du système éducatif français en Tunisie, alors que d'autres s'acheminent vers ce type d'enseignement en raison d'une part de l'efficacité de leur capital de relations sociales et de leur capital d'information sur le fonctionnement des études supérieures, et d'autre part pour échapper aux avancées de l'arabisation qui touchent davantage les universités que les grandes écoles. Alors, pour information, les politiques linguistiques en Tunisie, entreprises par le système éducatif public, sont au nombre de 3 et la place qu'elles ont concédée à la langue française diverge. Alors, la première cohorte de génération est parfaitement bilingue. Elle a été scolarisée entre 1955 et 1972. Le français était également une langue médiane. Elle servait pour les matières telles que les mathématiques ou alors l'histoire-géographie. Donc c'était vraiment une génération de Tunisiens bilingues. Alors la seconde entrée à l'école entre 1976 et 1990 a connu l'arabisation. Et enfin la troisième, 1991-2014, a fait l'expérience d'un retour progressif au bilinguisme arabe-français. Alors, est-ce que je suis au point au niveau de mon diapo ? Pas encore. Alors, au niveau des stratégies scolaires des parents, je vais m'attacher à ceux qui ont eu recours au système privé tunisien de manière instrumentale avant de les réorienter dans l'institution française. Alors, ces familles visent dans un premier temps à asseoir les connaissances de l'élève en langue arabe et française, à enraciner les bases de son bilinguisme, puis dans un second temps, d'accroître son capital scolaire et son réseau social en le réorientant dans un établissement français. Les parents croisent ainsi les offres éducatives disponibles pour accroître le capital linguistique et le capital social des enfants. Alors pour autant, d'autres parents aisés qui avaient fait ce choix de l'enseignement privé bilingue, initialement pour des raisons d'intégration sociale et linguistique, réorientent leurs enfants vers le système français, non pas de manière tactique, comme les précédentes, mais en raison du discrédit porté sur le premier système. Déçus, ces parents qui ont eux-mêmes côtoyé l'institution française, eh bien, décident de changer de structure éducative en raison des programmes surchargés, cumul du système français et du système tunisien, en raison des difficultés scolaires de l'enfant, il semblerait que la dyslexie ne soit pas prise en charge visiblement, et enfin, en raison de l'aliénation religieuse et des cours d'instruction religieuse obligatoires qui sont donnés dans l'établissement privé tunisien. Alors, je vais prendre le témoignage rapide d'une mère d'élève, donc titulaire d'une maîtrise de langue appliquée, qui me dit « Je vois maintenant dans les établissements privés et tunisiens, c'est cette façon qu'ils vont dire « Est-ce que c'est halal ? Est-ce que c'est haram ? Autorisé ? Permis ?» ou alors péché. Donc ces notions-là, on leur inculque à l'école. Donc la vie est gérée par ce qui est permis par Dieu et ce qui n'est pas permis par Dieu. Moi, j'ai été dans une école laïque. C'était beaucoup plus simple. Je passe. Donc les parents, qui appartiennent au milieu de la bourgeoisie tunisienne, revendiquent leur francophonie et assument cette composante linguistique de leur identité. Ils s'inscrivent dans et par l'usage du français et leur attachement aux valeurs laïques... Pardon. Alors, leur attachement aux valeurs laïques souligne leur désir de modernité religieuse. Leur vision du monde ne cadre pas avec les prescrits éducatifs de l'enseignement tunisien. Et malgré le désir d'intégration qu'ils ont pour leurs enfants, eh bien, finalement, ils leur font intégrer l'entre-soi des établissements français. Alors, d'autres familles, comme celle des couples mixtes, donc je pense à ces familles tunisiennes, franco-tunisiennes, mariées avec un Français ou un Tunisien, en fait, qui avaient fait le choix de scolariser leurs enfants dans le système tunisien, vraiment par souci d'intégration, se tournent elles aussi vers les établissements français pour des raisons de liberté de conscience et pour lutter contre les discriminations passives. Ce sont des enfants métis, ce sont des enfants non musulmans, ça peut être des enfants juifs. Alors, leur choix de vie personnelle est notamment celui du mariage mixte, union socialement hors norme, implique finalement la nécessité d'un enseignement laïque pour élever les enfants. C'est la seule façon de les extraire de la pression sociale et du harcèlement moral qu'ils subissent pour être des enfants de Roumi, donc des enfants non musulmans, donc dans le système tunisien. En outre, la référence aux autres religions monothéistes dans le système tunisien peut être passible de sanctions. Alors, passer du système privé tunisien au système français encourage certes la tendance à la différenciation des parents, mais témoigne du refus d'homogénéisation culturelle à la société tunisienne, une manière aussi pour eux de prendre leur distance avec les pesanteurs sociales et religieuses. Alors, je vais à présent démontrer que la neutralité des établissements français sert d'opérateur logistique aux familles et aux lycéens pour contourner ces pesanteurs sociales et religieuses. Alors, il faut savoir que le Maghreb est marqué par un regain général de religiosité particulièrement visible chez les jeunes instruits qui appartiennent parfois aux catégories sociales les plus intégrées socio-économiquement. L'apparition des mouvements islamistes coïncide avec l'émergence de nouvelles générations massivement alphabétisées en arabe et donc aptes à interpréter sans intermédiaire les textes sacrés du Coran. Les jeunes scolarisés sont aussi demandeurs idéologiquement de plus de religiosité et le groupe de pères joue un rôle majeur dans la socialisation islamiste au sein des institutions scolaires et universitaires tunisiennes qui participent à la radicalisation d'une partie de la population tunisienne. Alors certes, c'est aussi la conjoncture socio-économique qui participe activement à l'éveil religieux des jeunes générations qui, à défaut d'avoir pu se diriger vers un employeur, se sont dirigées vers les mosquées en raison d'un décalage entre leur niveau théorique d'éducation et leur situation sur le marché du travail. Alors malgré la radicalisation des pratiques religieuses d'une partie de la population tunisienne, cette lecture fondamentaliste de l'islam n'est pas représentative pour autant de la Tunisie, puisqu'à l'inverse, d'autres Tunisiens adoptent une lecture religieuse plus souple, individualiste, abreuvée par une culture à la fois moderne et fidèle aux traditions du pays. Alors, dans ce contexte, se diriger vers un établissement français permet aux parents de légitimer leur sortie de la religion. Alors, la sortie de la religion ne signifie pas sortie de la croyance religieuse, mais sortie d'un monde où la croyance est structurante. Alors, la laïcité et la liberté de conscience symbolisent ainsi l'opportunité et la liberté d'être croyant, pratiquant ou non, agnostique ou athée dans une société qui s'islamise et qui tend à radicaliser les devoirs religieux. Alors, je vais maintenant dresser rapidement une typologie des formes d'identification à l'islam des parents interrogés pour montrer l'inclinaison en faveur de la laïcité. Alors certes, l'islam, comme d'autres religions, donne lieu à une pluralité d'usages et on pourrait dire qu'il existe autant de formes de pratiques de l'islam que de musulmans. Quoi qu'il en soit, pour les 51 parents d'élèves interrogés, j'ai relevé 4 tendances distinctes en raison de leur degré d'implication ou de détachement religieux. Donc l'islam minimal, l'islam peu exigeant, l'islam pieux et fervent, et enfin l'islam athée ou agnostique. Alors l'islam minimal, pour construire cette figure, donc les critères pour la construire sont la quasi-absence de pratiques religieuses chez les enquêtés, mais surtout un attachement aux coutumes sociales et à la culture tunisienne. Pour eux, la conquête de l'autonomie et de la liberté religieuse se joue sur le terrain scolaire laïque, car le libre arbitre protège de l'endoctrinement et de toutes les obligations religieuses. Alors l'islam peu exigeant ou aléatoire désigne une individualisation des pratiques religieuses qui diffèrent de celles qui peuvent se radicaliser dans la sphère sociale tunisienne. Par rapport aux 5 piliers de l'islam, cette pratique signifie par exemple pratiquer uniquement le ramadan, pas dans son intégralité, et pas toujours de manière rigoureuse. Alors ce bricolage religieux implique un contournement de l'islam politisé, avec le rythme des prières, l'instruction religieuse dans l'enseignement public et le rejet d'un islam socialement en mutation. Alors l'islam pieux et fervent représente une minorité de 3 parents d'élèves. Alors ces parents d'élèves, il se trouve qu'ils sont français d'origine tunisienne et ils sont revenus s'installer en Tunisie. Ces parents ne retrouvent pas du tout l'univers religieux qu'ils projetaient pour leurs enfants et finalement ils se trouvent exclus de la sphère scolaire en raison d'une conception qui est jugée comme rétrograde de la religion. Ils sont exclus et puis finalement certains envisagent de retourner s'installer en France où l'expression de leur rapport à l'islam leur paraît tout compte fait plus aisée. Alors cette ségrégation ou diabolisation des autres différents de soi a aussi vocation à préserver le modèle de l'intégration par cloisonnement. En ce sens, la laïcité des établissements français est instrumentalisée pour protéger l'entre-soi de la population scolaire. La rencontre entre l'islam pieux et fervent et la laïcité soulève en effet un malaise auprès des parents d'élèves sécularisés et laïcs qui témoignent autant du souhait de ces derniers de réserver le religieux à la sphère privée que de réguler son expression ostentatoire dans la sphère publique. Alors, au sujet de la dernière figure, que j'ai nommé l'islam athée ou agnostique, elle correspond à 16 parents de l'échantillon. Alors, il faut savoir qu'en Tunisie, l'imaginaire social demeure dans une large mesure religieux. Et bien que la société demeure cantonnée dans une immense majorité aux référents arabo-musulmans, une extrême minorité de Tunisiens demeure indifférente aux religieux et elle a même parfois abandonner la croyance, comme les libres penseurs, les athées ou les agnostiques rendus plus visibles suite à la révolution dite de Jasmin. L'athéisme peut être considéré dans les pays musulmans comme une trajectoire interdite et elle reviendrait même à se défaire de son identité nationale. Pourtant, la sécularisation de la société en Tunisie a pu laisser place chez une minorité justement à une certaine forme de renoncement qui oscille entre un athéisme de conviction, un athéisme d'indifférence. Alors ces processus de détachement évidemment sont complexes et ils s'inscrivent dans la durée d'une trajectoire individuelle. Alors ils sont difficilement assumables socialement, notamment parce que l'atteinte à la morale, à la diffamation et à la perturbation de l'ordre public peut être sujet à condamnation. Alors, compte tenu du poids de l'islam et du fait que les athées et les agnostiques sont sous-estimés dans la culture tunisienne et que, pour rappel, le système éducatif public et privé tunisien perpétue une pratique institutionnalisée de l'islam par le biais d'un cours d'instruction religieuse obligatoire, choisir un établissement laïque permet à ces familles et leurs enfants de se libérer de l'autocensure. Alors, cette situation peut être équivalente pour d'autres familles tunisiennes minoritaires, comme ceux qui appartiennent à la communauté juive. Alors, la communauté juive constitue la minorité religieuse la plus présente dans l'histoire du pays en Tunisie. Pourtant, les préjugés et les expressions xénophobes ou racistes à l'encontre des juifs gagnent du terrain dans tout les sphères sociales et tous les espaces sociaux, notamment le système scolaire tunisien. D'ailleurs, l'association abusive entre juifs, israéliens et sionistes est fréquente et les sympathies et manifestations pro-palestiniennes sont actives. La population juive tunisienne et la population musulmane tunisienne peut être parfois en friction et les amalgames s'enracinent. Alors, le programme de l'enseignement laïque français, en sensibilisant la population scolaire à l'ouverture culturelle et au respect de l'autre, permet à quelques élèves juifs, 3 à 5% de la population scolaire, finalement de vivre dans un espace éducatif qui condamne l'antisémitisme et par conséquent, ça leur permet d'échapper partiellement à tous les dérapages qui ailleurs sont fréquents et finalement considérés comme naturels. Alors, le système scolaire français peut être entrevu à la suite de Françoise Lorcery comme un relais par lequel la catégorisation ethnique se module, voire s'atténue par le biais des activités scolaires qui s'effectuent dans son cadre. À condition, bien sûr, que les enseignants jouent le jeu et qu'ils ne pratiquent pas l'assignation identitaire des élèves. Parce que même si l'ouverture culturelle des lycéens est sollicitée et que les acteurs des établissements français tentent de canaliser les réflexes racistes, l'espace scolaire n'échappe pas à l'influence de l'antisémitisme généralisé, ce qui explique la discrétion, voire l'effacement des élèves juifs tunisiens. Alors pourtant, une partie des enseignants plus sensibilisés au problème antisémitisme, contrairement à leurs homologues tacitement liés à la cause palestinienne, livrent une bataille contre l'intolérance de certains élèves, une minorité, et veillent à réprimander ces élèves lorsque leurs propos dégénèrent en insultes. Alors, dans leur ensemble, les élèves juifs des écoles françaises ne sont pas rejetés frontalement car la communauté scolaire parvient à dépasser les divisions internationales. Finalement, le prestige des établissements français, la cohésion sociale entre les élèves et la fierté de faire partie d'une élite peuvent agir positivement sur le contexte sociétal tunisien. Alors, rapidement, je vais faire une conclusion courte. Je peux avancer que le laboratoire que constitue le dispositif scolaire français en Tunisie peut être considéré comme riche d'enseignement, puisque cet espace de socialisation atteste d'une volonté de faire valoir la reconnaissance de la diversité culturelle et religieuse et témoigne du contournement et du refus du déterminisme religieux de la société tunisienne en révélant un véritable modèle de coopération entre laïcité et religion, dans le respect même des acquis fondamentaux des croyants comme des incroyants. Merci.